Rencontre spirituelle aujourd'hui, une émission un peu spéciale et pas facile à faire. L'Église respecte-t-elle l'intelligence? J'en vois qui sourit et je suis le premier à me poser certaines questions parfois. Parce qu'on entend souvent dire que l'Église n'est pas puis ne peut même pas être accueillante à l'égard de l'intelligence, puis à l'égard de la science non plus d'ailleurs. J'avoue que bien souvent dans ma vie, il m'est arrivé d'avoir cette impression. Mais pourtant, quand on analyse vraiment les choses, et qu'on distingue vraiment entre l'Église et l'Église, n'est-ce pas? Il y a l'Église vraiment, puis malheureusement nous qui en faisons partie, et qui ne sommes pas habituellement bien dignes de ce qu'est vraiment l'Église. Et voici en quelques mots ce que l'Église a fait pour l'intelligence. Tout d'abord, et ça je vous l'ai déjà expliqué, l'Église catholique enseigne que l'intelligence humaine a toujours été apte à saisir le vrai puis le réel. Qu'est-ce que je veux dire? C'est en s'inspirant inconsciemment de la mentalité protestante que la plupart des courants de philosophie moderne aujourd'hui, je m'excuse de parler un peu de philosophie, j'ai une licence en philosophie, des fois je déborde un peu là. La plupart des courants de philosophie moderne affirment que l'intelligence de l'homme est incapable, disent-ils, d'aller au-delà des apparences des choses. Et que notre intelligence est incapable d'atteindre l'être en lui-même. Mais la philosophie catholique, du moins celle que l'Église accepte le plus, est presque la seule au monde à défendre la compétence, la compétence de la raison humaine, ou si vous voulez, de l'intelligence, puis à en revendiquer tous les droits. Je m'explique. L'Église lui reconnaît à la le réel. Qu'est-ce que je veux dire? C'est en s'inspirant inconsciemment de la mentalité protestante que la plupart des courants de philosophie moderne aujourd'hui, je m'excuse de parler un peu de philosophie, j'ai une licence en philosophie, des fois je déborde un peu là. La plupart des courants de philosophie moderne affirment que l'intelligence de l'homme est incapable, disent-ils, d'aller au-delà des apparences des choses. Et que notre intelligence est incapable d'atteindre l'être en lui-même. Mais la philosophie catholique, du moins celle que l'Église accepte le plus, est presque la seule au monde à défendre la compétence, la compétence de la raison humaine, ou si vous voulez, de l'intelligence, puis à en revendiquer tous les droits. Je m'explique. L'Église lui reconnaît, à la raison humaine en particulier, le pouvoir d'affirmer l'existence de Dieu, ça sans le secours de ce qu'on appelle la foi, ou de la grâce. Je vous l'ai dit et redit bien des fois. Et toutefois, il y a des ouvrages extrêmement intéressants comme « Aux sources de l'athéisme contemporain » de Marcel Neuch qui vient d'être publié dans la collection « Foi vivante » au Centurion qui met la pédale douce là-dessus, mais c'est autre chose, ça. Je vous en parlerai peut-être un jour. Mais en ce qui concerne les vérités ordinaires, d'ordre naturel, qui n'ont rien à voir avec la vie morale des hommes et des femmes, l'Église se déclare franchement incompétente. Elle s'occupe pas de ça, hein. Le savoir, elle s'occupe pas de ça. Il y a des membres de l'Église qui s'en occupent, mais c'est pas en tant que membre de l'Église, des grands savants, qui s'intéressent à la science. Parce que l'Église laisse aux savants toute liberté dans la recherche de ces vérités-là. Elle les encourage même, hein. Et pour ce qui est des vérités révélées, c'est autre chose. Mais l'Église se défend quand même en principe de faire pression sur l'intelligence quand c'est question des vérités révélées, là, des dogmes. Elle veut que, dans la mesure de ses capacités intellectuelles, le chrétien fouille avec sa raison des vérités qui dépassent apparemment sa raison. Et parce que la foi du chrétien doit être raisonnable. Vous direz que parfois elle condamne, c'est vrai, elle a souvent condamné. Mais elle est beaucoup plus libre aujourd'hui. Et dès que les hommes se mettent à douter de toute façon de l'intelligence, ou du moins, quand les hommes, les femmes ne voit dans l'intelligence qu'un moyen de découvrir puis d'exploiter des richesses matérielles, eh bien, ils se disent que penser pour chercher le vrai, c'est une perte de temps. Affirmer qu'il existe un vrai absolu, puis dépenser ses énergies pour le saisir, puis s'y accrocher, même au prix de grands sacrifices, là, même au prix de sa vie, c'est à leurs yeux pure folie. Ils sont devenus matérialistes, ces gens-là. Alors, ils ne pensent qu'à vivre, agir et jouir. Et c'est à leur avis les seuls éléments à retenir. Et ce raisonnement est au point de départ de toute la façon de penser si répandue de nos jours. On ne veut plus se servir, en fait, de son intelligence pour intelliger, pour comprendre les vraies choses. Et les conséquences ne se font pas attendre. Une fois que la volonté prend le pas sur l'intelligence, une fois que la vérité perd ses droits au profit de ce qui est utile, l'homme, la femme, ne tarde pas à déclarer vrai, ce qui procure un avantage matériel. Ils en arrivent à n'admettre comme réel que ce qui flatte leur goût, ce qui satisfait leurs ambitions. Puis, ils font du ce qui est relatif un absolu. Ils arrivent à adorer le veau d'or, quoi, comme on trouve dans la Bible. Et c'est aberrant. Alors, les gens ne se donnent plus le temps de réfléchir. Une idée qui plaît, même si elle est fausse ou incomplète, suffit à exciter leurs énergies, à déclencher leur action, et pour triompher, bien, ils sont prêts à piétiner impitoyablement tout le reste, hein, y compris même l'évidence, les droits de la raison. Ils vont piétiner même le bon sens. C'est ce que nous voyons dans ce siècle, et puis depuis bien longtemps. Ça, je pense que l'homme n'a pas tellement changé, mais on dirait qu'il est pire, là, depuis quelque temps. Et on l'a vu dans les mouvements totalitaires de ce siècle, hein. Le nazisme, le communisme en particulier, ça a ravagé le 20e siècle. C'est épouvantable, le simple bon sens, les droits de la raison, l'évidence ont été piétinés. Il suffit de constater la détresse effroyable, d'ailleurs, de notre époque, pour se rendre compte. Oui, se rendre compte qu'on a fait fausse route en refusant de laisser l'intelligence au gouvernail de la vie, comme l'Église le demande. L'humanité, on dirait, a perdu contact avec la vérité absolue. Et l'être humain s'est replié sur lui-même. Il s'est reconnu le droit de créer la vérité au lieu de se soumettre à elle. Ouais, il crée sa propre petite vérité. Au lieu de se soumettre à la vraie. L'Église, elle, ne connaît que la vérité. Vous direz, peut-être qu'elle est trop prétentieuse. Elle détiendrait la vérité, oui, parce qu'elle détient le Christ. Le Christ la détient. L'Esprit-Saint lui est donné. Les Écritures lui sont données. Et aujourd'hui comme hier, insensible aux attaques des uns, puis aux œuvres de collaboration des autres, l'Église affirme d'abord, calmement, qu'il existe une vérité absolue, et que l'intelligence humaine peut l'atteindre par elle-même. L'Église enseigne ensuite que sur cet ordre éternel et absolu des choses, saisi par l'intelligence, l'homme peut et doit construire sa vie, et que dès lors, c'est à la raison et non à une volonté aveugle que revient le droit d'organiser l'action des êtres humains. Vous servez sa raison si on veut conduire les êtres humains dans le bon sens et les amener au bonheur. Et l'Église déclare enfin que l'homme et l'être humain, quoi, sera jugé sur sa conformité ou sa non-conformité de vie avec les lois éternelles qui sont perçues par l'intelligence. Mais qui écoute aujourd'hui? Qui l'écoute? Ah! Avez-vous lu ce petit livre? Sommes-nous les derniers chrétiens? Ça se vend 6 $. De Jean-Marie Thiard, dominicain, publié chez Fides. J'ai lu ça hier soir, c'est une splendeur, c'est tout petit. 47 pages, c'est Fides. Publié ici à Montréal. Sommes-nous les derniers chrétiens? De Jean-Marie Thiard, dominicain. Qui l'écoute, l'Église? De toute façon, ce ne sont pas là les seuls arguments qui montrent combien l'Église est sympathique à l'intelligence. Il y en a d'autres. Elle se montre miséricordieuse quand il s'agit d'écart de conduite, mais elle se déclare quand même passablement intransigeante quand les droits de la vérité sont en cause. Elle enseigne que la récompense éternelle, promise à l'homme, va consister avant tout dans quelque chose de fantastique, dans une vision, une contemplation offerte à l'intelligence. Et à ce moment, la volonté ne désirera plus rien, mais elle va jouir de ce que l'intelligence aura découvert. Actuellement, comme autrefois, l'Église oppose aux tyrannies du monde, non pas des armées, c'est évident, et pas des canons non plus, mais elle oppose une pensée qui est enrichie de toutes les vérités révélées par le Christ Jésus. Et l'Église refuse de s'inféoder, de se mêler, de s'unir à tout système qui nie les droits imprescriptibles de l'homme, et en particulier le droit de l'intelligence, à diriger la volonté. Parce que comme Jésus, l'Église enseigne que c'est la vérité qui vous rend libre, hein, cette belle parole de Jésus. C'est pas les impulsions d'une volonté aveugle qui rend libre. C'est pas parce qu'on a le goût de faire quelque chose qu'on va être libre. Les pulsions mènent souvent à la catastrophe. En proclamant ainsi la valeur autonome de la vérité, puis la priorité de l'intelligence sur la volonté, bien l'Église exalte là, d'une manière extraordinaire notre faculté de penser, notre intelligence. Et voici comment, en deux mots, ce que l'Église a fait pour la science. Hein? Je passe là-dessus rapidement. L'intelligence humaine rassemble dans des sciences diverses, pas le fruit des recherches, ok. Hein? Il y a les sciences d'observation, bon, l'étude des phénomènes sensibles de la nature. Il y a les sciences philosophiques, là, l'étude du mécanisme de l'intelligence, de l'âme, de la vie morale, de Dieu, puis dans la mesure où ces sujets-là là, peuvent être atteints par la seule raison. Puis il y a aussi les sciences historiques, là, l'étude des faits, on connaît ça, l'histoire, quoi. L'Église n'est pas chargée de faire avancer les sciences profanes, elle est chargée de nous communiquer le message de la rédemption, de l'Évangile, et de nous aider à y conformer nos vies. Pour être heureux et utile aux autres, évidemment, si l'Église s'était abstenue complètement de marquer quelque sympathie à l'égard de la science, on n'aurait aucun reproche à lui adresser, on dirait très bien elle se mêle de ses affaires. Mais en fait, l'attitude de l'Église est extraordinairement bienveillante. Tout ce qui est humain l'intéresse, parce que le Christ qu'elle prolonge parmi nous n'a pas dédaigné, lui, de se mêler intimement aux occupations humaines. Je vous l'ai déjà dit souvent, il a par exemple acquis la science du charpentier, on le sait. Hein? Il a cherché sans doute à perfectionner son métier. Alors ne nous étonnons pas de voir l'Église qui propage les sciences profanes partout, dans des milliers d'écoles, de collèges et d'universités. Bon, ça a diminué, mais ça continue encore. Les faits abondent et nous ne pouvons en signaler que quelques-uns. Hein? Avant le 15e siècle, elle était seule à s'occuper de l'éducation des masses. Et il faut croire que l'Église n'a pas si mal réussi, si l'on songe que c'est précisément cette période du Moyen-Âge qu'on décrit, qu'on méprise ça par certains adversaires de l'Église, là. Mais c'est dans la période du Moyen-Âge qu'a vu surgir les cathédrales et les merveilles de la pensée. Parce qu'il faut rappeler dans quelle large mesure, dès le 16e siècle, elle a fait bénéficier de l'humanisme que l'on appelle l'humanisme gréco-latin, la jeunesse qu'elle accueillait dans ses collèges, c'était tous ces manuscrits que des bénédictins avaient retranscrits dans des scriptoriums, qu'on appelle ça, avant l'imprimerie. Et puis, ils ont comme ça gardé des tas de documents fantastiques qui ont servi à la formation de l'humanité d'aujourd'hui. Mais ça lui a joué peut-être un mauvais tour dans un certain sens. De toute façon, nous allons faire un petit moment de repos. Je vous parlais de ce que l'Église a fait pour la science, pour la connaissance, pour l'instruction. J'ai l'impression qu'elle a encouragé la musique d'orgue. Si on n'avait pas l'orgue de l'Église Immaculée Conception et de tant d'autres églises, où entendrions-nous cette musique sensationnelle et merveilleuse? Mais passons, taquinerie en passant. Soyons sérieux, dès l'époque là, du 16e siècle, puis rapidement par la suite, il y a eu de nombreuses congrégations religieuses enseignantes qui se sont fondées. pour assurer l'éducation de la jeunesse, l'éducation des plus pauvres aussi. À la veille de la Révolution de 1789 en France, savez-vous que l'Église comptait, pour à la disposition des Français, 25 000 écoles primaires gratuites, 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 900 collèges catholiques, 900 collèges catholiques. Évidemment que de nos jours, l'Église consacre encore des centaines de milliers de prêtres, de religieux puis de religieuses à l'éducation de la jeunesse dans des pays autres que le Québec où, malheureusement, la plupart d'entre eux ne sont plus dans nos maisons d'enseignement. Ça existe dans les endroits les plus retirés du globe. Ils ont perdu leur rôle ici. On sait ce que ça donne aussi. C'est à l'Église que revient l'honneur d'avoir fondé, saviez-vous ça, la première université, celle de Paris, la Sorbonne, qui comptait au XIIIe siècle 40 000 élèves. 40 000 élèves. Au XIIIe siècle. La population n'était pas immense à l'époque. Et depuis lors, l'Église en est établie un peu partout, puis elle en dirige de très importantes, telle l'Université catholique de Paris, qu'on appelle l'Institut catholique de Paris. Celle de Louvain aussi, en Belgique, qui est très fréquentée. Puis il y en a plusieurs aux États-Unis, puis il y en a plusieurs dans le monde entier. Sauf ici, nous les avons perdus. Et on songe aussi aux bibliothèques. Les bibliothèques qu'elle met encore à la disposition des intellectuels, et où elle assemble au prix de bien des sacrifices, hein, les trésors de la pensée humaine, quoi. Est-ce que c'est nécessaire aussi de rappeler que la plupart des chefs-d'œuvre littéraires de l'Antiquité doivent, je vous en ai glissé un mot tout à l'heure, à l'Église, d'avoir été conservés jusqu'à nous, hein, sans le travail obscur et patient de tous ces milliers de moines, je dis bien des milliers de moines, qui dans le silence des abbayes du Moyen-Âge ont consacré leur vie à recopier des manuscrits, ben on n'aurait rien des œuvres d'Homère, de Virgile, de Cicéron aujourd'hui. Bien oui, ça vous surprend peut-être. Et n'oublions pas qu'il s'agissait là d'œuvres exclusivement profanes, païennes, parfois même franchement immorales. Ils ont copié ça aussi, oui, oui. Quand l'imprimerie a fait son apparition, l'Église n'a pas boudé l'imprimerie, loin de là. Elle s'en est servie largement pour diffuser non seulement la Bible et ces choses-là, mais aussi les œuvres de la pensée humaine. On peut même se demander si l'Occident aurait connu sans l'aide de l'Église un tel essor intellectuel. Ça peut peut-être vous surprendre, mais ça n'empêche pas que c'est vrai. Et actuellement encore, si les gouvernements sectaires, là, les gouvernements dictatoriaux, ne mettaient pas tant d'entraves à son activité, l'Église développerait ses centres de rayonnement intellectuel et collaborerait davantage à la diffusion des connaissances scientifiques. Mais dès que certaines personnes voient le mot catholique ou le mot Église, ils s'imaginent que nous sommes des êtres horribles. Pourtant, oui, l'Église cherche à faire avancer les sciences profanes, et l'Église ne se contente pas seulement de répandre les fruits de la connaissance humaine. L'Église, elle prend une part active aux découvertes de la science. Savez-vous bien ça? Inutile d'insister tout d'abord sur les dispositions exceptionnelles dans lesquelles l'Église met le savant, qui accepte de suivre ses lois morales, évidemment. Elle l'encouragera pas à trouver de nouvelles méthodes d'avortement. Elle a un souci de la vérité, de la conscience professionnelle. Il faut que le savant soit désintéressé, qu'il soit détaché des biens terrestres. Puis là, elle l'encourage, car elle est fière de compter beaucoup de catholiques pratiquants parmi les savants laïcs, et même prêtres, et de trouver ainsi que la foi religieuse n'est pas un obstacle à la recherche scientifique, quoi. Je vous signale quelques noms rapidement. Pensez que Ampère, ça vous dit quelque chose? Marconi, Branly. Oui, bon, puis il y a Volta, Galvani, Bell, 6 des plus grands savants de l'électricité, puis de la radiodiffusion. C'est tous des catholiques pratiquants. Pasteur, je vous en ai déjà parlé, Louis Pasteur. Des médecins comme Laennec, Claude Bernard, et Charles Nicolle, dont je vous ai parlé aussi. On fait des découvertes médicales importantes. Il y a des grands mathématiciens. L'entomologisme Fabre, dont je vous ai parlé aussi. des astronomes, des grands astronomes. Puis Mendel, qui était moine, a découvert les lois de l'hérédité en biologie. Des archéologues comme Champollion, bien oui. Puis Louis de Broglie, spécialiste de physique moléculaire, puis de la théorie des quanta, prix Nobel. Puis Becquerel, spécialiste de la radioactivité, etc., etc., Édouard Leroy, philosophe des sciences. On n'en finit plus. L'Église paie spécialement un tribut à la science en appliquant un certain nombre de ses prêtres, je vous l'ai dit, ses religieux aux recherches scientifiques. Hein. Bon, regardons dans le siècle passé. Le pape Sylvestre II était considéré comme l'Archimède du Xe siècle à cause de l'étendue de ses connaissances scientifiques. Connaissez-vous le franciscain anglais Roger Bacon, Roger Bacon, père de la physique expérimentale? Savez-vous que Copernic était un chanoine allemand qui domine toute l'astronomie moderne? On peut citer l'œuvre remarquable des bollandistes qui, depuis plus de 3 siècles, se consacrent à l'étude critique des documents des vite saints. L'abbé Ming, je vais vous faire une émission sur cet homme du 19e siècle. Il a publié 379 volumes d'éditions critiques des pères grecs et latins, ce qu'on appelle la patrologie. Puis il publie bien d'autres choses. Le chanoine Rousselot, fondateur de la première chaire de phonétique expérimentale du Collège de France. Puis le fameux abbé Lemaître, un belge dont je vous ai déjà parlé, qui était professeur à l'Université de Louvain, prix Nobel de physique cosmique. C'est à lui qu'on doit la théorie du Big Bang. Ainsi que les abbés Breuil, je prépare une émission sur lui aussi, qui était professeur de paléontologie au Collège de France, etc., Teilhard de Chardin, etc., etc. Puis le frère Marie-Victorin. Les universités catholiques sont non seulement des instituts d'enseignement, mais des centres de recherche. Il faut de chiffres se rapportant à l'Église entière. Je me contente d'un secteur. Les jésuites ont dirigé à eux seuls près d'une quarantaine d'universités. De nombreux laboratoires, observatoires, hein, une dizaine d'observatoires, des tas et des tas de publications scientifiques. Hein. Ça, c'est rien que les jésuites. Le Vatican se devait de refléter la pensée de l'Église à l'égard de la science. Et on trouve d'ailleurs un observatoire, puis des musées, puis des bibliothèques remarquables au Vatican. Il y a un observatoire, oui. Il y a des institutions scientifiques là-bas. La première en date est celle de l'Académie pontificale des sciences, qui a été fondée en 1936 par Pie XI. Elle compte, je ne sais plus au juste combien, je pense que c'est 70 ou une centaine de savants, qui sont des catholiques, des protestants ou même des incroyants ou des musulmans, pourvu qu'ils ne soient pas sectaires, hein, ils sont choisis parmi les plus grands savants du monde entier. Et pour ce qui est du problème de la science et de la foi, ça revient tout le temps, ça. Peut-il y avoir conflit entre la vraie science puis la vraie foi? Je dirais que non. En effet, la science recherche dans la nature, les lois que Dieu y a mises. Et ça va surprendre peut-être. Parce que la foi transmet des vérités que Dieu a communiquées directement. Or, en Dieu, il ne peut y avoir de contradiction. Puis dès lors, puisque Dieu est à l'origine de ce que nous apporte par toutes sortes de chemins, de sources, la science et la foi, il ne peut pas y avoir de contradiction. C'est de la science et la foi. Pourvu qu'il s'agisse de vraie science puis de vraie foi, c'est pourquoi l'Église n'a jamais eu peur de la science. Je dirais même qu'elle souhaite voir la science s'étendre de plus en plus. Pourquoi? Écoutez ça. Parce qu'en définitive, la science nous fait mieux connaître Dieu par ses œuvres. C'est Pie XII qui disait, ces admirables découvertes scientifiques que l'Église favorise et encourage font ressortir avec plus de force et d'efficacité que jamais l'éternelle puissance de Dieu. Est-ce qu'on n'a pas ce sentiment-là quand on regarde à la télévision les choses les plus merveilleuses? Et ce qu'il peut y avoir conflit entre la vraie science et une donnée que l'on a fait entrer indûment dans le domaine de la foi, évidemment. Et c'est ainsi que prennent souvent naissance toutes sortes d'oppositions et des esprits prétendument scientifiques, sont teintés d'un petit peu de science, c'est pas des savants eux-mêmes, c'est rare en tout cas. Ils vont reprocher à l'Église tel enseignement, en contradiction flagrante, disent-ils, avec les découvertes scientifiques. Mais, quand ils se donnent la peine de s'informer, ils sont tout étonnés de voir que l'Église n'a rien enseigné à ce sujet, qu'on se rappelle par exemple ce qui a été dit en son temps sur la création du monde en 6 jours. Ça fait belle lurette que tout ça est interprété autrement. Puis, quantité d'autres choses. Je ne m'étends pas là-dessus, ça me... bon, c'est pas la peine. Aujourd'hui, il est question d'un sujet un peu difficile, à savoir si l'Église respecte l'intelligence et... J'essaie de vous montrer autant que possible que oui, elle respecte l'intelligence, mais elle l'a beaucoup respectée, l'intelligence, malgré tout ce qu'on peut penser. Vous savez que il faut bien reconnaître que parfois certains membres importants de l'Église, sans engager d'ailleurs l'infaillibilité de l'Église, se sont inquiétés inutilement de telle ou telle découverte scientifique. Ils l'ont condamné, sans raison suffisante. C'est arrivé. Je le reconnais, puis c'est bien dommage. Il n'y a pas là de quoi quand même me troubler, moi, personnellement. Puis il n'y a pas de quoi nous troubler. Parce que l'Église, on le sait, elle est humaine. Mais elle est divine aussi, tout à la fois. Et sauf sur les principes fondamentaux du message du Christ, mais elle est sujette à l'erreur. Mais quand même, je tiens à vous lire un petit texte ici, à côté de l'œuvre gigantesque accomplie par l'Église durant les 20 premiers siècles de son histoire. Que vaut la douzaine d'objections que ses adversaires ressassent périodiquement à son endroit? Écoutez bien. Mais elle est divine aussi, tout à la fois. Et sauf sur les principes fondamentaux du message du Christ, mais elle est sujette à l'erreur. Mais quand même, je tiens à vous lire un petit texte ici, à côté de l'œuvre gigantesque accomplie par l'Église durant les 20 premiers siècles de son histoire. Que vaut la douzaine d'objections que ses adversaires ressassent périodiquement à son endroit? Écoutez bien. Nous en connaissons la monotone litanie qui va de l'abus de l'Inquisition, en passant par le bûcher de Jeanne d'Arc, l'affaire Galilée, la Saint-Barthélemy, etc. Mais quand tout ça s'est réduit à leur... Écoutez bien. Nous en connaissons la monotone litanie qui va de l'abus de l'Inquisition, en passant par le bûcher de Jeanne d'Arc, l'affaire Galilée, la Saint-Barthélemy, etc. Mais quand tout ça s'est réduit à leur très exacte proportion, quand ces événements sont replacés dans les circonstances de temps et de lieu où ils se sont déroulés, eh bien, il prouve tout simplement que des hommes d'Église qui ne sont ni infaillibles ni impeccables, ça prouve que leurs errements ou leurs fautes ne sauraient engager l'Église elle-même. Au surplus, les menus grains de poussière qui dansent dans une raie de lumière là qui vient par la fenêtre, ça n'empêche point le soleil de donner sa chaleur et sa clarté, hein, dit l'auteur. Et c'est vrai. Non, l'Église respecte l'intelligence, car à mon avis, elle développe l'essentiel dans la personnalité humaine. Je suis allé à une confirmation samedi matin de mon petit-fils Pascal, et il y avait là Monseigneur Lapointe qui conférait la confirmation. Et il nous a lu un texte du jeune, tout jeune, Patrick Dextraz-Paquette. Voici son texte, et c'est tellement charmant, et ça nous montre bien combien l'Église respecte l'intelligence parce qu'elle développe l'essentiel dans la personnalité humaine. Patrick écrit « Quand je vois les casques bleus aider les personnes en difficulté, quand je vois des bénévoles donner leur temps gratuitement, des organisations comme l'accueil Frédéric qui aide les démunis à se vêtir, je crois en l'Esprit-Saint. Il m'aide à prendre les bonnes décisions. Comme quand je fais mon ménage de chambre avant qu'on me le demande, quand je joue avec ma petite sœur à la place de la faire fâcher, quand je décide d'étudier au lieu d'écouter la télévision, etc. C'est pour ça que je tiens à être confirmé, pour moi aussi être attentif aux besoins des autres. C'est aussi une continuité dans ma vie de chrétien. J'ai été baptisé, j'ai fait ma première communion, et maintenant, ma confirmation arrive et je suis fier. Patrick Dextraz-Paquette, avec comme catéchète Réjeanne Laneuville, à la paroisse Sainte-Colette, samedi dernier. Si elle respecte l'intelligence, puis elle le développe, comment ça? C'est que, malgré la profonde estime dont l'Église entoure la nature humaine, elle nous répète inlassablement qu'une seule chose est nécessaire. je viens de vous le dire dans ce texte de Patrick, insérer notre vie dans la vie du Christ, établir entre lui et nous une étroite communauté de pensée et d'action par l'entremise de l'Esprit-Saint. On ne peut rien faire de plus intelligent, il me semble. Le corps le mieux bâti, pensez-y, l'intelligence la plus vive, ou les sens là, les plus affinés, qui des musiciens, des poètes, etc., les artistes, le cœur le plus aimant, mais ça ne vaut pas une âme vivant dans l'amitié véritable de Dieu, parce que sans la vie de Dieu en nous, sans la grâce, nous pouvons nous remuer beaucoup, mais ce n'est pas suffisant pour intelliger, comme on dit, le tout de l'être humain. Revenons à l'essentiel. On appartient au Christ de deux façons. Une façon invisible, qui est notre adhésion au corps mystique du Christ. Et l'autre façon qui est visible, qui est notre appartenance à la communauté, évidemment visible, de l'Église. Or, j'ai dit adhérer au corps mystique du Christ. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je vous assure que rien n'est réel comme l'action de l'invisible sur nous, me croyez-vous? Dans l'ordre matériel, la science moderne nous en donne abondamment les preuves. Voici un petit exemple. À l'instant précis où vous m'écoutez, il y a une infinité d'ondes invisibles qui déferlent entre vos oreilles et votre appareil de radio. Toutes ces ondes vous apportent des quatre coins du monde, de la musique, des discours, des nouvelles, toutes sortes d'affaires, même des messages de la police. Pour avoir la preuve de ce formidable déferlement de sons au milieu desquels vous êtes noyé, il vous suffirait de tourner le bouton, de changer de poste, de toute allure, puis vous entendriez toutes sortes d'affaires. Mais faites pas ça, restez à Radio Ville-Marie 91,3. Croire à l'invisible, c'est donc une chose très naturelle et très aisée au XXe siècle. Les ondes sont invisibles et elles existent. Et tant, quand c'est d'autres choses. Hein. Dans l'ordre spirituel, mais la vie divine se répand par toute la terre, comme les ondes des postes émetteurs. D'une manière aussi réelle, tout en étant immatérielle et aussi mystérieuse. Et l'essentiel est de capter cette vie qui vient à nous. Comment? C'est d'accepter la grâce, d'adhérer au Christ, de devenir un petit morceau, une petite cellule de son corps mystique. Ah, cette idée est un peu démodée peut-être, mais des tas de gens en vivent. Or, nous, chrétiens, nous disons que le Christ est vivant, hein? Il est vivant. Il vit dans chacun des membres de son corps mystique, et chacun de ses membres participe réellement à la vie du Christ. Toute notre famille chrétienne est une incarnation prolongée puis collective du Christ vivant. Et d'un côté, il y a la survivance purement symbolique d'un écrivain, d'autant plus mort que ses admirateurs enseignent que après la mort, il n'y a rien. Puis de l'autre côté, il y a la présence permanente d'un Christ plus vivant que jamais depuis sa résurrection et qui nous enseigne que nous sommes éternels. Il y a des gens qui s'intéressent davantage à des auteurs morts. Moi, je m'intéresse à un auteur vivant. Or, puisque Dieu agit continuellement sur nous, il convient que nous soyons attentifs à son action. Se préoccuper de la présence puis de l'action de Dieu, c'est ce qu'on appelle avoir une vie intérieure. Qui mène une vie intérieure? C'est celui qui prend conscience que Dieu est présent en lui, puis qui s'efforce, il s'efforce de régler ses pensées, puis ses paroles, puis ses actions sur cette réalité qui l'habite, sur Dieu qui l'habite. Comme nous sommes des êtres de chair, mais notre regard intérieur, il cherche de préférence un être de chair. C'est pourquoi nous aimons à nous représenter Dieu sous les traits humains du Christ Jésus et à concevoir notre vie intérieure comme une amitié avec celui-ci. Il est vivant, on peut marcher bras-dessus avec lui. Le terme de la piété, sa raison d'être, son couronnement, c'est l'intimité avec Dieu. Or, peu d'âmes relativement la possèdent. Beaucoup la considèrent comme impossible. Pourquoi? Parce que la raison principale est que nous avons l'habitude de traiter Dieu comme un absent. On dirait, il est là, au loin. Mais non! Comment devenir intime avec quelqu'un qui n'est jamais là? L'intimité, ça suppose la présence, et c'est ce que disait le Père Plus. Puisque nous sommes chargés de continuer l'œuvre du Christ sur terre, nous pouvons nous comparer à l'administration d'un grand domaine, et nous parcourons le domaine en compagnie du Maître, et nous lui signalons ce que nous avons fait, et ce qui reste à faire. Nous ne lui cachons pas nos maladresses, on s'accuse de nos fautes. Et nous lui demandons conseil. Et c'est comme ça qu'il nous faut vivre avec Dieu. Puis il faut le prier, mais en apportant dans nos relations avec lui une confiance, un abandon d'autant plus grand qu'un lien d'amour filial nous unit à lui. Et toutes les âmes de bonne volonté sont invitées à s'élever intelligemment et progressivement à ce niveau de perfection où Dieu cesse d'être lointain, inaccessible, pour devenir vraiment un être tout proche et très paternel. Et n'oubliez pas que la volonté de Dieu est que l'ensemble des chrétiens restent dans le monde, et je ne veux pas insulter les moines, les prêtres, les moniales, etc. Il veut que la plupart des chrétiens accèdent quand même dans le monde à la vie intérieure. Il dit, Jésus, Père, je ne vous demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal et de les y sanctifier. Heureusement qu'il y a des monastères pour aller nous ressourcer. C'est évident que ça exige de notre part un effort de concentration, une habitude de réflexion. Ce n'est pas simple d'appartenir au royaume des cieux, qui n'est pas de ce monde, puis de vivre en même temps dans ce monde de façon intelligente. C'est pas si simple de nous attacher à Dieu et de profiter en même temps des biens matériels de façon intelligente. Le problème est bien délicat. Le monde où nous vivons est organisé de manière à nous faire oublier Dieu. Au lieu de nous élever vers lui, le monde l'ignore, les journaux, la télé, le cinéma. Terrible, il est bien rare que tout cela nous parle de Dieu. Tout s'organise autour de nous comme si Dieu n'existait pas et comme si le Christ n'était pas venu nous libérer de la platitude. Il n'y a pas lieu de s'en étonner, le monde n'a pas reçu le Christ. Il ne reçoit pas davantage les chrétiens. Ce sont des étrangers qu'il regarde avec curiosité et indifférence. C'est donc là le problème que tout chrétien doit résoudre. Vivre avec Dieu dans un monde sans Dieu. Réagir en chrétien dans un monde qui ne l'est pas. Mais heureusement, la grâce nous est donnée pour sortir vainqueurs de cette épreuve de fidélité. Mais par contre, ce serait une autre illusion de croire que la perfection spirituelle à laquelle Dieu nous appelle consiste à faire des choses extraordinaires. Non, non, non. Thérèse l'Enfant Jésus nous l'a bien enseigné. Et quantité de saints, quantité d'auteurs spirituels. Et l'Évangile même? Non. Dans les vues de Dieu, nos occupations ordinaires sont autant de moyens d'intensifier notre vie intérieure. Puis, les soucis d'une mère de famille, d'un père de famille, les responsabilités d'un PDG, les souffrances d'un malade, le travail d'un étudiant, ne sont pas des obstacles à l'épanouissement d'une vie intérieure. C'est évident, ça. Il me semble que c'est bien évident. Au contraire, par ces voies que Dieu se donne davantage à nous. Car, conformément aux indications du Christ qu'il dit, il le dit bien, « Mon disciple n'est pas celui qui dit « Père, Père », mais celui qui fait la volonté de mon Père. » C'est par des actes, si simples soient-ils, que le chrétien prouve son amour, soumettant intelligemment sa vie entière à la loi de Dieu, jugeant intelligemment de tout selon les vues de Dieu, travaillant intelligemment sans relâche à l'œuvre de la création et de la libération des âmes. Non, je tiens à insister sur ceci. La grâce est donnée, augmentée ou rendue par les sacrements, et puis les sacrements, au centre des sacrements et à la Sainte Eucharistie, qui nous fait participer à la vie du Christ. Dans le sacrifice de la messe, cette immense offrande amoureuse de Jésus, le Fils éternel, à son Père, notre Père, dans l'unité de l'Esprit-Saint. Quand nous participons à la messe, eh bien nous entrons d'une façon plus personnelle et plus consciente dans ce grand courant de vie, d'amour, de pardon et d'union qui s'établit entre Dieu et l'humanité et la règne l'intelligence. Nous engageons tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons dans l'offrande perpétuelle du Christ à son Père. Et en retour, nous recevons un accroissement de vie divine, et les liens qui nous unissent à Dieu se resserrent davantage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, dit le Seigneur, demeure en moi et moi en lui. Il faut donc comprendre et vivre la messe, et la messe n'est plus un épisode accessoire de notre petite journée ou dans notre semaine. Elle est l'acte par excellence qui domine toute notre vie. Elle est le centre vers lequel s'oriente notre activité d'hier et d'où nous viennent lumière et force pour l'activité intelligente d'aujourd'hui. Elle est le foyer où le Christ rayonne par nos actes quotidiens dans le monde, qu'il doit ramener au Père. Et c'est ainsi, surtout, que l'Église respecte l'intelligence en illuminant le monde. Alors il faut donc adhérer à la communauté visible de l'Église, puis adhérer à l'Église visible. C'est le grand et le meilleur moyen d'adhérer au Christ. Il n'y a qu'un pasteur, le Christ. Il n'y a qu'un bercail, l'Église. Oui, je vous le rappelle, il s'agit d'adhérer à l'Église visible. C'est pas facile parfois. Parce que c'est le grand et le meilleur moyen d'adhérer au Christ. Oui, croyez-moi, c'est pas facile. Parce qu'il n'y a qu'un pasteur, c'est le Christ. On n'adhère pas à l'Église parce que le curé est fantastique. Remercions Dieu si on a un bon prêtre. Puis il y en a beaucoup de bons prêtres, beaucoup, beaucoup plus qu'on pense. Mais on y va quand même quand s'il y a eu une dispute ou s'il ne nous comprend pas. Il faut y aller quand même. C'est plus précieux que tout. Autrement dit, en dehors de l'Église, je dirais qu'il n'y a point de salut quand on est intelligent. Intelligent, quand on intellige les choses, je veux dire. C'est ça que je veux dire par intelligent. Quand on comprend l'essentiel. Je veux pas dire quand on est intelligent, dans l'autre sens, là. Mais attention, très important de rappeler que dans la pensée même de l'Église, beaucoup adhèrent implicitement à elle sans lui donner pourtant une adhésion extérieure. Oui, je vous le rappelle, il s'agit d'adhérer à l'Église visible. C'est pas facile parfois, hein. Parce que c'est le grand et le meilleur moyen d'adhérer au Christ. Oui, croyez-moi, c'est pas facile. Parce qu'il n'y a qu'un pasteur, c'est le Christ. On n'adhère pas à l'Église parce que le curé est fantastique. Remercions Dieu si on a un bon prêtre. Puis il y en a beaucoup de bons prêtres, beaucoup, beaucoup plus qu'on pense. Mais on y va quand même quand s'il y a eu une dispute ou s'il ne nous comprend pas. Il faut y aller quand même. C'est plus précieux que tout. Autrement dit, en dehors de l'Église, je dirais qu'il n'y a point de salut quand on est intelligent. Intelligent, quand on intellige les choses, je veux dire. C'est ça que je veux dire par intelligent. Quand on comprend l'essentiel, je veux pas dire quand on est intelligent, dans l'autre sens, là. Mais attention, très important de rappeler que dans la pensée même de l'Église, beaucoup adhèrent implicitement à elle sans lui donner pourtant une adhésion extérieure et formelle. Quand on dit « hors de l'Église, point de salut », il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Il y a des gens qui s'imaginent qu'il faut penser à la lettre. Pas du tout. L'Église enseigne en effet que le Christ peut donner sa grâce sans passer par les sacrements dont elle est dépositaire. Écoutez bien ça. Parce que l'Église dit bien « comment Dieu pourrait-il refuser sa grâce à un athée, à un agnostique, à quelqu'un d'autre ?» qui n'a jamais entendu parler du Christ et son Église, et qui agit pourtant en conformité absolue avec sa propre conscience. Écoutez bien ce texte de Pie IX, dont on pense qu'il était très sévère, et qui date de 1854, je dis bien 1854, ça fait 150 ans quasiment. Il dit « l'Église est l'unique arche de salut ». Parce que l'Église dit bien « comment Dieu pourrait-il refuser sa grâce à un athée, à un agnostique, à quelqu'un d'autre ?» qui n'a jamais entendu parler du Christ et son Église, et qui agit pourtant en conformité absolue avec sa propre conscience. Écoutez bien ce texte de Pie IX, dont on pense qu'il était très sévère, et qui date de 1854, je dis bien 1854, ça fait 150 ans quasiment. Il dit « l'Église est l'unique arche de salut, bon, hors de laquelle périra quiconque n'y entrera pas. » Mais, il ajoute « cependant, il faut également tenir pour certain que les victimes d'une ignorance invincible de la vraie religion n'encourent aucune culpabilité aux yeux de Dieu. Et maintenant, qui s'arrogerait le pouvoir de tracer les limites de cette ignorance ?» C'est ce que disait Pie IX déjà. Bon, ça veut dire qu'on peut sauver partout. Dans un monastère bouddhiste, chez les Tibétains, chez les animistes, chez les athées, en se soumettant à Dieu ou à tout le moins à sa conscience, en cherchant à faire sa volonté, ou du moins en agissant selon une conscience droite, dans la mesure même où ces âmes-là sont sincères, là, pie. Elles adhèrent sans le savoir à l'Église visible du Christ et l'enseignement de l'Église. Ils ont en eux un amour, finalement, qu'ils ignorent de toute l'œuvre de Dieu, même s'ils ignorent la venue du Christ sur la terre. J'irai plus loin, si ces gens-là connaissent l'incarnation du Fils de Dieu, puis qui n'ont pas saisi la volonté du Christ de fonder une Église visible, qui est l'Église catholique, puis de voir tous les siens s'unir en un seul corps, s'ils sont sincères, bien, ils en font finalement intérieurement partie sans le savoir, et on doit les considérer comme des frères et les aimer. Cette ignorance peut être telle, d'ailleurs, que des âmes, on le voit chez certains sectaires protestants, qui croient défendre le Christ en attaquant l'Église, en disant que c'est une Babylone, c'est une horreur, que le pape est l'antéchrist. Bon, disons que ces adversaires de l'Église peuvent même être sauvés pour avoir appartenu implicitement à l'œuvre qu'il a voulu détruire. Cet homme-là qui veut détruire l'Église, il y appartient quand même, ça va loin, hein? Parce que c'est l'amour qui transforme tout. Et c'est l'amour de la volonté de Dieu. Mais il ne reste pas moins vrai que le Christ a voulu établir une Église visible. Il la jugeait normalement nécessaire pour assurer salut et la sanctification des siens. Je développerai ça dans une émission plus tard. Il faut bien comprendre que le Christ a dit « Celui qui vous écoute, m'écoute ». C'est dénaturer sa pensée que de se contenter d'admettre des vérités de foi et de ne pas tenir compte des directives pratiques que l'Église donne, elle, qui a été fondée par Jésus. Si notre amour de l'Église nous permet de l'écouter, il faut, en conscience, faire connaître la bonne nouvelle à chaque génération. Il faut participer à cette œuvre. Il faut essayer de transmettre. Le Christ a fait appel à tous ses disciples. Il leur a donné la mission de prolonger son apostolat. Puis, d'imprégner de vie divine le monde entier. Les termes qu'il emploie, c'est clair, mais vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre, le levain dans la pâte. Hein? Alors, quand on dit qu'on est chrétien, ça veut dire qu'on est apôtre. Quiconque me rendra témoignage, dit Jésus, devant les hommes, je rendrai aussi témoignage à son sujet devant mon Père. Hein? Ce n'est pas tout, il a dit aussi, je suis venu apporter le feu, que j'aime cette parole, je suis venu apporter le feu sur terre, et quel est mon désir sinon qu'il embrasse tout? C'est un feu intérieur, c'est un feu d'amour, c'est un feu... Ah, le chrétien, c'est un homme de feu. Il participe à cette immense aspiration de l'Église à laquelle il appartient. Et qui s'efforce de faire régner le Christ partout, l'amour du Christ. Et puis, il y a le commandement de l'amour du prochain. Aimer, c'est aussi une mission de conquête que le Christ nous confie. Qui aime partage son bonheur, notre petit bonheur, c'est pas un petit bonheur, c'est un immense bonheur qu'il faut partager. Et dès lors, tout homme qui reçoit la grâce reçoit en même temps l'ordre de la propager intelligemment. Le sacrement de confirmation est là pour nous rendre plus capables et plus intelligents dans notre apostolat. Depuis un siècle et demi, on le sait, le laïcisme désagrège lentement l'édifice social que l'Église avait construit, patiemment, sur des bases chrétiennes. Il y a ce libéralisme philosophique. Puis, il y a l'introduction d'une prétendue neutralité dans tous les domaines. Puis, tout ça s'est ébranlé, il y a une vague de paganisme. Et pour enrayer le mal et rétablir les droits de l'Église, l'Église ne dispose que d'un clergé bien insuffisant, pas assez nombreux. Mais par ailleurs, les milieux entiers se ferment à l'action directe du prêtre. Alors, l'Église se tourne vers les laïcs. Elle nous rappelle notre apostolat. C'est ce que nous essayons de faire. Nous avons quand même 30 prêtres à Radio Ville-Marie, 30 prêtres qui collaborent avec nous. Et beaucoup de laïcs. Puis c'est plein de prêtres qui sont invités sur les ondes. Et je demanderai donc aux prêtres qui m'écoutent de parler de Radio Ville-Marie en chair le plus souvent possible, ne serait-ce que 5 ou 10 secondes, juste pour une anecdote, pour rappeler que ça existe et que c'est à 91,3 au FM. On n'en entend jamais parler presque en chair dans la plupart des églises où je vais. Peut-être que je vais pas dans les bonnes églises. De toute façon, il est naturel que dans cet apostolat qui engage toute l'œuvre du Christ, les laïcs se tiennent sous la dépendance des évêques et qu'ils trouvent dans les prêtres des assistants spirituels. C'est pour ça que je demande assistance spirituelle des prêtres. Et dans l'Église, il n'y a donc pas de groupe. Nous travaillons ensemble. Il faut que la vie du Christ, sa doctrine, son enseignement, l'enseignement de son Église soit entré dans toutes les fibres du corps, de l'esprit et de la volonté. Il faut intelliger les choses, il faut comprendre, il faut servir de sa tête, il faut être fidèle, il faut être farouchement fidèle, affectueusement fidèle au Christ en se servant de son cœur, mais aussi de son intelligence. C'est à ce prix seul qu'on réalise le type idéal humain, tel que Dieu veut qu'il soit. Et nous serons alors des chrétiens debout et vivants. D'esprit seul, qu'on peut sauver, qu'on peut épanouir vraiment toutes les valeurs humaines. Pour un meilleur service de l'humanité, oui, l'Église respecte l'intelligence et c'est à nous de le montrer, à nous de le faire. Oh, si on lisait des livres comme « Prier 15 jours avec Maurice Zundel », on y découvrirait des belles choses. Pour faire réfléchir à l'intelligence des grands chrétiens, ce prêtre Maurice Zundel, admirable, et quantité d'autres livres, c'est plein de beaux livres. Lisez les belles choses et vous serez convaincus, et lisez l'Évangile.